littoraux poétiques. Littoraux poétiques, l'émission où la terre et la mer s'entremêlent. Partez à la rencontre d'un chercheur ou d'une chercheuse au travers d'une œuvre. Épisode 1, autour de la forêt amante de la mer, avec Yves Enoch.
Bonjour à nos auditeurs, bonjour à toi Yves.
Bonjour.
Je suis très heureuse aujourd'hui d'ouvrir avec toi la série de podcasts Les littoraux poétiques. Quelques mots de présentation pour commencer pour nos auditeurs. Je suis Catherine Bouimard, je suis ingénieure de recherche au CIRED, qui est le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, qui est un centre de l'École des hautes études en sciences sociales. Et je participe au groupe de travail Poète, post-littoralisation et transition environnementale, qui est un groupe de travail du groupe de recherche aux mers, océans et mers du CNRS. Donc je vais aujourd'hui m'entretenir avec toi, Yves, autour de l'œuvre « La forêt amante de la mer » de Yatekeyama Shigehatsu, qui est parue en 2019 aux éditions Wild Project dans la collection Tête nue et qui a été traduit par Augustin Berck, qui signe également la postface. Donc Yves, tu es président du comité Littoral et Mer de la Fondation de France et secrétaire général du Plan Bleu. Tu es biologiste spécialisé dans les milieux marins et tu as longtemps travaillé à l'IFREMER. Alors avant d'aller plus loin et de nous parler de ton travail de recherche, ainsi que de l'œuvre que nous avons choisie ensemble, peux-tu nous préciser si avant de devenir chercheur, tu entretenais un lien particulier avec les littoraux, le milieu marin, et si oui, dans quelles circonstances tu as tissé ce lien?
Ben, bonjour. Mon histoire, elle est un peu banale. Tout commence quand, en étant petit et en passant les vacances au bord de la mer. C'est tout simple. En faisant du bateau et en appréciant la mer et arrivé au bac, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire? Et tout naturellement, j'ai dit, ah, la mer. Mais alors, la mer, quoi faire? Parce qu'il y a toute spécialité qui existe, que ce soit océanographe, il y en a qui disent océanologue, d'autres biologistes, chimistes, etc. Et j'ai choisi la biologie marine, parce que les animaux qui vivent sur la plage, sur la côte, dans la mer, ne serait-ce qu'avec mon expérience d'adolescent allant à la pêche à pied sur l'estran, fait que c'est la mer qui m'a appelé.
Donc tu es donc biologiste marin, tu as toujours travaillé sur les milieux marins et dans ta communauté de recherche, l'idée du littoral, est-ce qu'elle fait sens et de quelle façon est-ce que cette idée du littoral est présente?
Alors, quand on travaille, puisque ensuite j'ai travaillé à l'IFREMER, donc un organisme qui s'occupe d'océanographie, qui s'occupe de sciences, de manière générale on dit sciences marines, on s'intéresse au milieu marin. Mais n'empêche qu'on sait tout de suite que ce milieu marin, il est sévèrement impacté par le milieu terrestre et tout ce qui se passe sur le bassin versant, toutes les activités. Et une de mes activités, justement à l'IFREMER, entre autres en Méditerranée, a été de monter tout un réseau de surveillance de la qualité de l'eau. Et quand on se préoccupe de ces problèmes de surveillance de la qualité de l'eau, avec tous les acteurs, que ce soit les élus, mais aussi, par exemple, l'Agence de l'eau, qui est en charge de ces questions de rejet dans les rivières ou de rejet diffus, on fait le lien avec la Terre et on s'intéresse à cette interface terre-mer qui fait le littoral.
Tu as choisi un passage de l'œuvre pour faire une première lecture. Avant de le lire, est-ce que tu peux nous parler davantage de cet auteur et de cette œuvre?
Alors, oui, Hatakeyama Shigatsu, c'est un de ces, disons, je n'allais pas chercheur, mais de véritablement fermier de la mer qui est un peu original au Japon, il faut bien dire, hein, qui parle de la mer, qui parle de son expérience, mais de manière très, très vécue. Finalement, bien sûr, il a travaillé aussi avec des chercheurs. Il s'est intéressé, plus particulièrement à partir de ce qu'il faisait, c'est-à-dire la culture des huîtres, au cycle biologique de l'huître, comment ça se passe, comment se nourrit l'huître, quelles sont les dynamiques qui sont en jeu dans l'eau pour faire en sorte que l'eau elle soit suffisamment riche, et d'où très vite ce lien, probablement aussi parce que c'était son lieu de naissance, avec la forêt. Il faut savoir qu'au Japon, le bassin versant et la pente du plateau continental est extrêmement abrupte. Et on passe très très vite de la forêt à la mer. Et donc il y a un lien direct, peut-être encore plus fort que n'importe où ailleurs. Il y a un lien direct entre cette forêt et cette mer. Et comme il dit, effectivement, cette forêt nourricière de la mer. Pour eux, c'est extrêmement fort. Et c'est vrai un peu sur toutes les côtes. C'est vraiment dû à la configuration des côtes japonaises. Et j'en dirai un peu plus, à peu près.
Oui, alors justement, quelle est la place qu'occupe cet auteur et cette œuvre dans ta trajectoire personnelle et dans ta perception des littoraux ?
Alors, ma trajectoire personnelle, elle est double, en l'occurrence. Il y a une trajectoire qui est liée, effectivement, au littoral et à la mer par rapport à mes propres activités. Ici en France et ailleurs, dans différentes parties du monde. Et puis, très tôt, il y a mon lien avec le Japon. Et ce lien avec le Japon, il a démarré très vite. Je suis parti d'une petite île en Bretagne, l'île de Wat, en l'occurrence, où on faisait de l'élevage de homards, pour partir au Japon, une autre île, un grand archipel, qui était considéré à l'époque véritablement comme un peu la Mecque de l'aquaculture et de toutes ces pratiques de repeuplement. C'est pas l'aquaculture pour l'aquaculture, c'est élever des juvéniles pour ensuite les rejeter en mer. Une grande idée, peut-être un peu utopique, mais au Japon pas tant que ça, parce qu'ils l'ont fait par millions. Et nécessairement, cette histoire avec le Japon, elle est bien sûr en termes de recherche, en termes de développement de ces pratiques d'aquaculture et de repeuplement, mais en termes culturels, forcément. Et j'arrivais au tout début des années 80, dans un monde que j'ignorais totalement. Donc j'ai découvert un autre monde, et certainement, malgré les apparences d'un monde développé comme le nôtre, d'un monde culturel totalement, je ne vais pas dire opposé, mais en tout cas extrêmement différent, et que je retrouve bien dans le livre justement de Hatakeyama.
Alors voici un passage que tu as choisi, nous l'écoutons.
La vaste forêt de feuillus avait été remplacée en trop peu d'années par la forêt de résineux, et cette forêt en pleine transition, immature et à faible capacité de rétention, avait selon eux démontré son impuissance. Les arbres plantés depuis les années X de Showa, même entretenus, doivent encore attendre pas mal de temps avant qu'on ne les coupe pour de bon. Il y a de quoi penser que les tourments des gens de la forêt ne sont pas terminés. Si la montagne en amont est abandonnée, les crues incontrôlées, l'eau ne suffit plus pour l'irrigation des campagnes et les besoins quotidiens des villes. En mer, la production des pêcheries diminue, les conséquences sont incalculables. Je ressentis fortement que, de quelque façon, les gens de l'aval qui ne cessent de bénéficier des bienfaits de la forêt devaient témoigner leur reconnaissance envers les gens de la forêt en amont.
Très joli.
Très beau. Alors, tu en as déjà parlé, mais revenons-y quand même plus en détail. Qu'est-ce qui, dans ce passage, fait particulièrement écho à tes recherches, à tes réflexions, à ta perception du littoral ?
Ben, ce qui est très fort, c'est ce lien terre-mer qu'il décrit. Et de manière intéressante, en remontant finalement de la mer vers la terre. C'est une sorte de processus inverse à ce à quoi on est habitué. Nous, les touristes, je parlais de mon enfance, on va sur la plage, on s'amuse sur la plage, on fait un peu de bateau peut-être, mais c'est toujours la même vision de la terre vers la mer. Là, tout d'un coup, les choses s'inversent. Bien sûr, ils parlent aussi en tant que pêcheurs, c'est-à-dire regarder la mer, mais nourrie, d'où son titre, nourrie véritablement par la terre. Et pour ça, il chemine, il fait le chemin en sens inverse. Il part de la mer telle qu'elle est aujourd'hui et il essaye de comprendre ce qu'elle est devenue par rapport à l'évolution elle-même du bassin versant et de cette forêt qu'il décrit, qui se transforme de feuillu en résineux. On voit bien les évolutions qu'on voit partout sur les littorales et effectivement ces impacts que ça peut avoir ensuite en redescendant en sens inverse vers le dernier réceptacle qu'est la mer, les impacts que ça peut avoir. Multifacteur, dans toutes les acceptions du terme, c'est-à-dire véritablement, bien sûr, par rapport ne serait-ce qu'aux écoulements de l'eau. Une forêt de feuillus denses, extrêmement épaisses, comme c'est très souvent le cas au Japon, retient l'eau beaucoup plus, on le comprend, c'est une question de bon sens, qu'une forêt de résineux exploité, où les arbres sont beaucoup plus espacés, etc., et l'eau va couler librement. Et donc il n'y aura aucun ce travail de, je dirais, de filtration naturelle des eaux qui s'écoulent ne va pas pouvoir se faire et donc des eaux qui vont s'écouler directement dans la mer avec des apports soudains comme il peut pleuvoir très fort au Japon, des apports soudains qui vont effectivement, je dirais, submerger sur le plan composition chimique des eaux au détriment de la vie qui est dans l'eau.
Alors, on va continuer sur ce sujet, mais avant tout, lire un second passage. Il est extrait de la postface donc, qui a été écrite par Augustin Berg.
Alors ça, oui, je tenais beaucoup à le lire parce que on passe, c'est une vision finalement d'un occidental, Augustin Berg, et qui essaye de nous expliquer un petit peu justement cette approche très différente de la nôtre du milieu naturel, de la nature de manière générale. Je lis. En effet, comme on l'a vu plus haut, la mésologie, donc, c'est cette étude, il va le dire, cette étude des milieux, véritablement. C'est pas l'écologie, c'est pas ce rapport de sujet à objet, mais c'est beaucoup plus le sujet que nous sommes dans un milieu, où un dialogue s'instaure entre sujet, nous, et sujet, nature.
En effet, comme on l'a vu plus haut, la mésologie s'attache à ce qui distingue la singularité propre aux divers milieux de l'universalité propre à l'environnement. Cela revient à admettre qu'un même donné factuel puisse être interprété diversement, c'est-à-dire avoir un aspect différent, exister différemment selon les êtres concernés. L'aspectivisme de la langue japonaise s'y prête remarquablement, car il permet la coexistence dans une même phrase de temporalité ou de point de vue différent.
Voilà, je crois que là, tout est dit, mais on peut en parler.
Ben justement, parlons un petit peu de l'écriture, parce que l'écriture, elle est particulière de ce livre, enfin, la composition du livre plutôt que l'écriture, et que la langue est particulière. Pour nous, c'est quelque chose qui est assez étranger. Alors, si on est en plus un lecteur occidental, mais si on est un chercheur occidental, comment est-ce qu'un chercheur occidental dialogue avec ce type de texte, ce type de savoir, ce type d'imaginaire qui est repris dans ce livre? Et est-ce que ça fait une différence de provenir de cette culture occidentale? Et est-ce que notre rapport à la science empêche quelque chose qui serait présent et qu'on trouverait dans ce livre?
Oui, je pense, et effectivement, comme tu le dis, ne serait-ce que lire le livre. Alors pour nous, c'est un peu déroutant. On en parlait, il n'y a pas du tout cette linéarité à laquelle on est habitué. On commence par la conclusion, en quelque sorte, ce à quoi on est habitué. et puis pour y revenir, et puis revenir en arrière, et puis repartir, etc. C'est une succession d'impressions. La langue japonaise, elle est faite de ça. Elle est faite de... La grammaire est très simple, et très, pour nous, elle est, comment dire... oui, elle est vraiment basique, parce que tout est dans l'expression, dans les suffixes. Par exemple, la langue japonaise a un nombre d'onomatopées absolument extraordinaire, d'où le succès des mangas. Mais il y a un nombre qu'on n'a pas, nous. On est incapable de décrire les bruits que fait une pierre qui tombe dans l'eau. On va dire flop. Oui, bon. Mais eux, ils vont avoir une dizaine d'onomatopées pour décrire exactement la manière dont la pierre tombe dans l'eau ou la grenouille saute dans l'eau à un certain moment de la journée ou de la nuit. D'où les haïkus japonais, la poésie japonaise. C'est très court, c'est-à-dire c'est l'instant. Il s'agit de décrire et de ressentir ce qu'on ressent dans l'instant. Et l'instant, c'est la même chose. Ce philosophe qui est cité par Augustin Berg sur l'instant dans cette relation entre homme et nature. Ce moment, il l'appelle moment structurel de l'existence. Ça, je trouve ça magnifique. C'est-à-dire, l'homme regarde la montagne, mais la montagne regarde l'homme aussi. La montagne se reflète dans ses yeux, directement. Et donc la montagne a une existence en soi. Il y a un dialogue qui s'instaure entre, on pourrait même le dire de manière générale, entre le paysage et l'homme. C'est pas l'homme qui contemple, comme on le voit dans les romans ou les images du XXe siècle ou du XIXe siècle, qui contemple un paysage. Non, il y a un véritable, c'est dynamique. Le paysage n'est pas figé. Les choses ne sont pas figées. Donc il y a ce dialogue qui s'instaure entre homme et nature, et entre chaque moment qui le structure, finalement, tout ce qui se passe dans la nature. Il y a un autre auteur qu'on pourrait citer, qui est vraiment dans notre monde, on en a parlé un petit peu, c'est Giono. C'est Giono. Quand on lit Le Chant du Monde, il y a cette espèce d'imbrication intime entre l'homme et la nature, quelque chose de très très puissant. Et je pense que quand on s'est intéressé à la culture japonaise, on revient vers Giono avec peut-être un œil différent.
Alors, lisons un troisième passage pour voir si effectivement on retrouve cet esprit.
Oui, là c'est un passage qui est intéressant parce qu'il rejoint un petit peu les questions de recherche d'océanographie et le lien entre le global et le local. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Les pêcheries du Nord, il parle du Pacifique Nord, essentiellement.
Les pêcheries du Nord abondent en poissons et fruits de mer, saumon, morue, lieu, crabe, coquille Saint-Jacques, etc. Raison en est que le Pacifique Nord est le secteur marin terminal des remontées d'eau profonde, et que du fait des vents d'ouest, le fer contenu dans les terres d'Asie est fourni par le ciel.
Magnifique évocation du phénomène, je dirais, cosmique.
Par photosynthèse à la lumière du soleil du printemps, le plancton végétal prolifère, induisant, dans la suite de la chaîne trophique, cette grande quantité de poissons. Ces faits, rapportés d'un ton calme, étaient pour moi une suite d'étonnements.
C'est le pêcheur qui lui parle, en l'occurrence.
Alors, si on s'extrait un petit peu de cette œuvre, justement, en quoi le contact répété avec cette œuvre ou avec d'autres œuvres qui nous exposent, qui font part d'une sensibilité un peu identique, mais également tes voyages au Japon, en fait, comment est-ce que ça t'inspire et comment, en fait, ça nourrit ton travail de chercheur?
Alors, mon travail de chercheur, il a beaucoup évolué depuis mes études en biologie. Je me suis intéressé très tôt, y compris quand j'étais au Japon, à justement cette relation entre activité humaine sur la côte et en mer. Et puis, les pratiques elles-mêmes et comment peut-on faire évoluer ces pratiques, la gestion de ces pratiques protéger, mieux protéger et faire en sorte que toutes les ressources qui nous sont offertes par la mer et sur le littoral continuent à être là et à être disponibles pour l'homme. Donc ça veut dire, à mon avis, qu'il doit y avoir des changements de comportement profonds, par rapport à la relation que l'on a avec la nature. On apprend beaucoup, à mon avis, de ce type d'ouvrage, de la culture japonaise en général, mais d'autres cultures. On pourrait citer très bien la culture polynésienne. La culture polynésienne est une culture océanique, une culture de l'océan. Et pour eux, l'océan, c'est une divinité avec laquelle ils dialoguent en permanence. Je pense que ce sens du sacré, mais sacré au sens respectueux du terme, devrait, je dirais, à nouveau nous immerger, nous imprégner beaucoup plus pour faire en sorte de changer le rapport profond que l'on a effectivement avec la nature qui nous environne, avec la nature dans laquelle on est, dont on fait partie et dont on exploite les ressources. Tant qu'on considérera effectivement que le poisson qu'on pêche, que ce soit au chalut, que ce soit à la ligne, etc., mais surtout au chalut, parce que le chalut, c'est vraiment de la pêche en masse, n'est qu'un vulgaire objet bon à la consommation, qu'il faut essayer de garder plus ou moins frais, et qu'on n'aura pas un respect profond pour cet animal qu'on a capturé, comme dans les civilisations anciennes, la chasse. Toujours, il y avait à la fois ce rapport, bien sûr, de prédateur, mais aussi de respect, y compris devant l'animal mort qui avait été capturé, en remerciant, en quelque sorte, la nature, en remerciant, en invoquant les dieux de la nature, de leur avoir donné ce cadeau pour pouvoir survivre. Et je crois qu'il faut qu'on revienne, il ne s'agit pas de revenir, bien sûr, à l'homme des cavernes, mais il s'agit de revenir à ses fondamentaux. Alors, c'est difficile à expliquer, surtout aujourd'hui où il faut aller vite, il faut avoir des activités qui soient rentables là, au jour le jour. Très, très difficile à expliquer. Mais je pense que les pêcheurs, pour ne citer qu'eux, par rapport à la capture du poisson, les pêcheurs ont ça en eux-mêmes. Simplement, ils sont pris à la gorge par tous les emprunts qu'ils peuvent faire pour pouvoir avoir un nouveau bateau, pour pouvoir avoir des engins de pêche, pour pouvoir vivre et vendre leurs poissons au jour le jour. Mais se donner peut-être le temps, effectivement, de repenser ce rapport à la nature de manière globale. Alors, encore une fois, c'est très vague, mais je pense qu'il faut véritablement et qualitativement... Ce qu'aime bien dire quelqu'un comme... il y avait un poète qui parlait de géopoétique, qui est mort là récemment.
Kenneth White.
Kenneth White, voilà, qui parlait de géopoétique. Et je crois que c'est ça, cette prise de conscience qu'on fait partie d'un tout, qu'on est dans un cosmos. Et j'aime beaucoup ce dernier passage, parce qu'il fait le lien, justement, entre les phénomènes à l'échelle qui nous dépasse complètement, à l'échelle, on pourrait dire cosmique. Bon, là, c'est le Pacifique Nord. Mais pour quelqu'un qui vit sur le littoral, c'est une échelle cosmique. Parce qu'on parle de ce qui se passe au-dessus, à la surface. On ne parle pas de ce qui se passe en dessous. Il en parle un peu, les courants. Hein, toutes ces dynamiques internes à l'océan, qu'on ne comprend pas, mais en même temps qui nous détermine, qui détermine les ressources qu'on va pouvoir récolter, mais qui nous détermine aussi complètement, ne serait-ce que sur le plan climatique.
Merci Yves. Ouais. Ici s'achève notre périple entre terre et mer. Merci de t'être prêté à cet exercice, d'avoir partagé cette vision du littoral et ouvert des perspectives poétiques.
Merci beaucoup.
Merci à Arantxa Sánchez du CIRES, Bénédicte Barillet, Thomas Debeny de l'EHESS qui ont participé à l'organisation de cette émission, ainsi qu'à toute l'équipe de Radio Évasion, à l'équipe des Littoraux Poétiques, notamment Alix Levin et Justine Berthaud. Merci aux auditeurs pour leur écoute et à bien vite pour une nouvelle émission des Littoraux Poétiques.
Vous venez d'écouter Littoraux Poétiques épisode 1, autour de la forêt amante de la mer de Hatakayama Shigehatsu. Une émission réalisée par Radio Évasion avec Catherine Bouémard, ingénieure de recherche au CIRED, et Yves Enoch, président du comité Littoral et Mer de la Fondation de France et secrétaire général du Plan Bleu. Littoraux Poétiques, une émission proposée par le groupe Poète du groupement de recherche Océan et Mer, avec le concours du Centre national de la recherche scientifique, de l'École des hautes études en sciences sociales et de Radio Évasion. Une émission à réécouter sur Radio Évasion, sur la page podcast de l'EHESS ou sur le site GDR Océan et Mer.